Lundi 14 janvier, la revue de l'Académie américaine des sciences publiait une nouvelle évaluation de la masse glaciaire de l'Antarctique. Le constat est alarmant, la fonte des glaces est 6 fois plus rapide aujourd'hui qu'il y a 40 ans. L'urgence climatique n'a pas vu naître une réponse à la hauteur lors de la dernière conférence des parties, la COP24, qui s'est achevée le 15 décembre à Katowice, en Pologne, après 13 jours et 13 nuits de négociations. En matière d'accords internationaux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le protocole de Kyoto, signé en 1997, est dans tous les esprits. L'accord de Paris, signé en 2016, grande fierté du président de la République française Emmanuel Macron, tend vers beaucoup plus de souplesse, avec encore et toujours un constat, l'incapacité de ces accords internationaux à imposer des objectifs à des États qui sont souverains, la menace de la sanction les amenant à quitter le navire. Ces grands rendez-vous que sont les conférences des parties sont régulièrement décriés par la société civile et citoyenne. À l'échelle individuelle, des initiatives écologistes naissent et une pression est mise sur le politique pour faire face à ses responsabilités. Est-ce que l'urgence climatique fait bouger les lignes du droit international ? De quelle manière ont évolué ces rencontres que sont les COP, conférences des parties ? Et comment se positionne l'État français sur la scène géopolitique alors que les États-Unis et le Brésil désertent les espaces de discussion ? Quel pouvoir du citoyen face aux élus ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invitée est Marion Lemoine-Chaune. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, au laboratoire Institut de l'Ouest Droit et Europe à l'Université Rennes 1. Et l'une de vos thématiques principales de recherche, eh bien, c'est le droit international de l'environnement. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, je vous laisse la parole.
La 24e COP, COP pour Conference of Parties, s'est achevée le 15 décembre en Pologne, à Katowice. Ce rendez-vous mondial sur le réchauffement climatique a réuni 196 pays et des milliers de participants, des politiques, des techniciens, des chercheurs et des défenseurs de l'environnement. Et vous, Marion Lemoine-Chauneux, vous y étiez. C'est votre 6e COP depuis celle de Copenhague en 2009. Racontez-nous comment vous êtes arrivée à ce grand rendez-vous mondial.
Bon, merci de votre invitation. Ma participation au COP, donc aux conférences des parties sur le climat, qui sont en fait les réunions officielles du processus onusien de négociation sur les changements climatiques. En débutant ma thèse, en 2009, j'ai participé à la COP de Copenhague, qui a été assez unanimement constatée comme étant un échec de la diplomatie climatique. Et depuis, la restauration de la confiance entre les négociateurs, parce que négocier sur un sujet aussi complexe que les changement climatique, un défi global et à 197 États partis ou parties plus l'Union européenne, c'est difficile. Ma participation au COP, en fait, moi j'y suis à titre d'observatrice, comme de nombreux autres chercheurs. Je ne fais pas partie de la délégation française, donc je ne négocie pas, je ne conseille pas directement les négociateurs, si ce n'est que c'est une grande réunion et que des échanges informels sont très nombreux. Y compris dans les couloirs de la COP. Je suis certains sujets dans les négociations sur le climat et je cherche à évaluer ou comment situer ces réunions annuelles dans une dynamique internationale beaucoup plus large de réunions politiques structurées par certains textes juridiques depuis toutes ces années.
Mais par exemple, c'est aussi simple. Vous envoyez votre candidature ou votre inscription et on vous dit c'est d'accord, c'est aussi simple que ça.
Alors sur le plan pratique, pour participer à une COP, il faut y être accrédité. Il faut être membre d'une association dont l'intérêt est reconnu par le secrétariat de la Convention cadre sur les Nations Unies sur les changements climatiques. Moi, j'y suis à titre avec toute une équipe d'une association en fait qui s'appelle l'Association française pour les Nations Unies, qui est située à Aix-en-Provence, et nous nous sommes régulièrement accrédités. Mais c'est plutôt une validation formelle, c'est assez facile d'obtenir cette accréditation. On reçoit ensuite un quota, donc un nombre de places disponibles, généralement un tiers ou la moitié des places demandées, et les chercheurs peuvent partir par ce biais.
Et alors, on trouve des chercheurs de toutes disciplines ou parmi ces observateurs, ou est-ce que les sciences dures ne sont pas un peu en situation hégémonique, non ? Comment ça se passe ?
Oui, historiquement, les sciences dures et surtout les climatologues étaient en situation de force. Aujourd'hui, je dirais qu'ils sont beaucoup plus présents donc, par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et leur présence au COP se fait finalement assez rare, si ce n'est pour les représentants officiels du GIEC cette année, par exemple, le rapport spécial sur les conséquences d'un réchauffement à plus 1,5 degré qui a été publié en octobre 2018 fait que les membres du GIEC étaient assez nombreux et on a beaucoup discuté des conséquences de ce rapport qui sont intégrées dans les décisions qui sont prises lors de ces COP. Donc les climatologues étaient présents. Aujourd'hui, il y a une forte prédominance des économistes, chercheurs ou conseillers. Vous avez cité les représentants des défenseurs de l'environnement, mais il y a également les représentants de bien d'autres secteurs, notamment les secteurs industriels qui sont fortement présents dans les COP. Et donc on voit à la fois le processus de négociation officielle, les lobbies sont très présents.
Puisque vous avez eu six COP, c'est pas rien. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment ça se passe et aussi que vous nous disiez quelles sont les décisions qui ont été prises à Katowice par rapport à d'autres rendez-vous. Vous avez démarré en disant que Copenhague avait été un échec, sans refaire tout l'historique, mais en quelques mots. Qu'est-ce qui s'est passé cette année, il y a un mois?
Alors, les enjeux de la COP24 de Katowice en Pologne ont été fixés au moment de l'adoption de l'accord de Paris le 12 décembre 2015, donc à la COP21 qui a été fortement médiatisée. Et il s'agissait, pour la COP24, c'était la deadline en fait pour adopter les manuels d'application, donc des règles d'opérationnalisation des normes contenues dans l'accord de Paris. Donc les rendre opérationnelles, savoir comment précisément les mettre en œuvre. Donc ce manuel d'application de l'accord de Paris, il a été adopté effectivement à Katowice. Mais les deux autres enjeux importants consistaient à faire le point sur la question du financement du changement climatique et deuxièmement appeler au niveau politique à un relèvement par tous les pays de l'ambition climatique. Et donc c'est vraiment autour de ces trois enjeux que les questions de la COP ont été organisées.
Et commentez-nous ces différentes conclusions.
Alors, sur le manuel d'adoption, jusqu'aux dernières heures de la COP, mais c'est
donc assez 13 jours, 13 jours, 13 nuits de négociation.
13 jours, 13 nuits, c'est ça. Donc, plus de 24 heures de retard sur la date, sur l'heure attendue de fin de COP, mais c'est régulièrement le cas. Et la dernière phase des COP est la phase politique. Donc, après avoir bouclé les sessions de discussion technique, avoir préparé des projets de décision qui sont propres, c'est-à-dire qui ne comportent plus ni parenthèse, ni crochet, ni différentes options. Le niveau ministériel, donc les ministres présents, là il y avait très peu de chefs d'État à Katowice, contrairement aux autres COP. Les ministres présents font le point sur les choix qu'ils vont vraiment opérer. Donc cette phase politique doit aboutir, et c'est souvent très, très difficile, puisque ça fait appel à des ressorts de souveraineté très importants, les modes de production. La question de la faisabilité en fait, des objectifs d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc la phase est compliquée et on termine les COP souvent en retard. Néanmoins, ça a permis d'adopter le manuel d'application de l'accord de Paris, ça c'est acté, qui est prévu pour entrer en vigueur à partir de 2020. Donc là, il n'y a pas de retard pris pour l'instant. En revanche, sur les deux autres enjeux que j'ai cités tout à l'heure, le financement et le relèvement de l'ambition de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Les résultats sont plutôt décevants dans le sens où les financements ne sont pas, le compte n'y est pas, les financements ne sont pas encore réunis dans le cadre du fonds vert sur le climat à hauteur des promesses qui avaient été faites. Et enfin, sur le plan de l'ambition, seules les îles Marshall, là, durant la COP, ont donné le nouveau chiffre qui fera leur contribution déterminée au niveau national, les fameuses CDN, ces promesses étatiques que les États doivent donner régulièrement, tous les 5 ans. Et relevé progressivement dans le cadre des négociations sur le climat. Et les autres États, notamment la France, ont appelé les partenaires à être ambitieux dans le relèvement des objectifs, mais aucun n'a délivré ce relèvement d'objectifs. Donc,
si j'ai bien compris, ce que disaient en particulier les experts du GIEC cet automne, non seulement il fallait qu'à Katowice plein de choses soient actées, mais qu'on fasse mieux et plus vite et plus grand que ce qui avait été décidé il y a plusieurs années, en particulier avec l'accord de Paris. Et toujours, si j'ai bien compris, si on mettait bout à bout les engagements qui avaient été pris au moment de l'accord de Paris, de toute façon, on serait déjà, avec ce statu quo, à plus une augmentation de plus 3% la température mondiale, et donc c'est catastrophique là.
Alors le principe de l'accord de Paris, c'est d'effectuer tous les 5 ans un bilan mondial des efforts consentis. Un bilan mondial qui scénarise en fait sur le plan climatologique les promesses formulées par les États, qui intègrent également les efforts consentis par les acteurs privés, et notamment les industries pétrolières y compris. Ce bilan quinquennal, donc il est prévu pour s'appliquer à partir de 2023, et le GIEC a déjà effectivement souligné dans son dernier rapport d'octobre 2018 qu'en l'état actuel des promesses, ça met sur une trajectoire à plus 3 degrés de réchauffement par rapport au niveau pré-industriel d'ici la fin du siècle. Ce qui n'empêche pas d'aller plus bien au-delà des 3 degrés ensuite. Et on sait que les différences, les conséquences sont déjà très différentes entre un réchauffement à plus 1,5 degrés, c'est ce que montre le rapport, et un réchauffement à plus 2 degrés en tout point du globe. Non seulement pour les pays, non pas seulement pour les pays vulnérables. Donc les conséquences de ce, donc les promesses ne sont pas à la hauteur des préconisations scientifiques. C'est un constat que tout le monde partage. Si les voix climato-sceptiques se font de moins en moins entendre aujourd'hui, et surtout dans le cadre des négociations onusiennes, on a vu quand même un mini scandale, mais qui est très révélateur entre les 2 semaines de COP, là, le samedi soir, lorsque certains pays, et notamment l'Arabie Saoudite, soutenue par les États-Unis, par la Russie et par le Koweït, ont refusé d'accueillir ce rapport spécial qui avait été commandé par les instances onusiennes. Ont refusé d'accueillir, c'est le terme qui avait été proposé par le président de session, et voulaient se contenter de, je cite, « prendre note » de ce rapport. Donc amoindrir en fait la portée politique et tout simplement largement la place faite à la science dans ce processus politique. Se sont opposés l'Union européenne et tout un grand nombre d'autres pays réunis ensuite dans une coalition plus ambitieuse, mais ça montre le clivage et les contextes politiques particulièrement tendus qui étaient à l'œuvre en 2018 et donc pour la COP24 également.
Juste préciser que c'est pas un hasard si c'est la Russie, le Koweït et l'Arabie Saoudite, grands producteurs de pétrole et de gaz. Donc ils défendent leurs intérêts, leur économie, etc. Christian.
Alors on est évidemment au cœur d'un paradoxe assez, enfin, intellectuellement fascinant et politiquement tragique, hein, qui est à la fois l'urgence climatique et la relative impuissance du droit international, ou disons... le décalage qu'il y a entre l'ambition du droit, qui en principe est de gouverner les conduites mécaniquement, et la position un peu particulière d'un droit international qui ne peut le faire que en rencontrant et souvent en butant sur la souveraineté des États. Alors, est-ce que l'urgence climatique fait un peu bouger ça, ou est-ce qu'on en est toujours là ?
Eh bien, en tant que chercheuse en droit international, c'est justement cette question qui guide, Christian, toutes nos recherches, à savoir qu'est-ce que le changement climatique fait au droit et fait-il bouger les lignes du droit, c'est-à-dire la manière de construire le droit, la perception du droit international par les différents acteurs, les acteurs publics mais aussi les acteurs privés à l'échelle mondiale, comment est-il réceptionné et finalement quelles sont les chances de son effectivité, c'est-à-dire sa réelle mise en œuvre, et de son efficacité, c'est-à-dire solutionner les problèmes posés.
Pour encore compléter ma question, on a l'impression d'être confronté à un droit incitatif dans un contexte où, évidemment, il faudrait passer à des formes de régulation plus efficaces, voire plus contraignantes. D'où le risque aussi que ces COP successives apparaissent pour des observateurs un petit peu un peu cyniques comme ou un peu déprimés comme un jeu politique formel comme du théâtre et comme voilà des choses sans prise avec la réalité.
En prenant du recul sur les décennies, les dernières décennies de négociations et les différents textes, puisque les grands textes de droit international en matière climatique sont la Convention cadre de 1992 qui pose les grands principes, qui pose l'objectif ultime de la lutte contre les changements climatiques, à savoir préserver, maintenir un niveau de concentration des émissions de gaz à effet de serre, donc du CO2 dans l'atmosphère qui évite toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc on cherche bien à préserver un système Terre. Donc et cette convention cadre, elle a été complétée d'abord par le protocole de Kyoto en 1997, qui est entré en vigueur en 2005, et qui était beaucoup plus ferme, beaucoup plus contraignant, qui comportait des règles de comportement, des règles de conduite plus précises que ne le fait l'accord de Paris. C'est pour ça que l'accord de Paris est évalué souvent comme moins ambitieux, peu contraignant, bien qu'il soit obligatoire puisqu'il s'agit d'un vrai traité international. Et donc, on est dans une, quand on prend du champ, on se rend compte qu'on n'est plus capable de faire des règles aussi contraignantes à l'échelle internationale qu'auparavant.
La sanction, c'est quoi ? C'est la honte ?
C'est la sanction dans l'accord de Paris, c'est le name and shame. Ouais. C'est voilà, la désignation au sein d'un comité de pairs comme le mauvais élève.
Donc c'est l'opinion publique mondiale.
C'est l'opinion publique mondiale. Ouais. Tandis que dans le protocole de Kyoto, un système abouti de contrôle existait. Le mécanisme d'observance qui permettait d'identifier les États qui ne respecteraient pas, qui n'étaient pas sur la voie, la bonne voie pour respecter leurs obligations, de les accompagner financièrement, techniquement, puis seulement en cas d'échec, de les sanctionner. Mais on a vu que ça a abouti au retrait des États concernés. Donc sur le plan politique, il n'était pas, le système protocole de Kyoto n'a pas permis d'aller plus loin.
À Kyoto, tout le monde a compris la nécessité de stopper le processus, mais le protocole conclu il y a 5 ans n'a jamais été appliqué. Principaux responsables, les États-Unis, qui ont toujours rejeté un accord jugé coûteux et injuste pour l'économie américaine.
Extrait des archives de l'Institut national de l'audiovisuel avec un reportage diffusé sur France 3 le 3 septembre 2002, 5 ans après l'initiation du protocole de Kyoto.
C'est pour ça que on n'a pas réussi à négocier une suite au protocole de Kyoto et qu'on a voulu changer de traité. Donc l'accord de Paris apparaît comme une nouvelle manière de faire du droit international, beaucoup plus souple, beaucoup plus incitative, effectivement, avec une collection de promesses étatiques concernant l'atténuation des émissions, mais aussi les stratégies d'adaptation, qui sont de plus en plus prégnantes pour le climat. Et donc l'accord de Paris ne prévoit aucun mécanisme de sanction, mais un mécanisme de transparence. En fait, il cherche à assurer la fiabilité des informations délivrées par les États en termes de contenu des promesses édictées, en termes de comparabilité de ces promesses pour faire ce fameux bilan mondial tous les 5 ans.
Mais qui contrôle ça ? C'est-à-dire, les États, après tout, peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc, il y a bien ou des experts, ou des politiques, ou des je ne sais qui peuvent dire à un moment tel pays est entre guillemets plus vertueux ou pas.
dans le système de l'accord de Paris, dans le régime juridique de l'accord de Paris, on cherche avant tout à ne perdre aucun participant. Donc c'est la participation universelle qui reste le leitmotiv, et donc le système de promesses étatiques, les contributions déterminées au niveau national, dans le jargon onusien, sont extrêmement souples. On exige des États, sur le plan matériel ni sur le plan méthodologique, qui ne fournissent aucune preuve. Par contre, ça, le manuel d'application qui a été adopté à la COP24 permet de préciser ça. Plus de clarté, plus de précision, qui permettant une comparabilité des différentes promesses.
Au fond, on a un peu l'impression que depuis Paris, on fait l'hypothèse que, au fond, on fait l'hypothèse d'une possible vertu des États qui serait liée au fait que chaque État ressentirait tellement directement l'impact du changement climatique que chaque État aurait individuellement intérêt à devenir plus vertueux, par opposition à une période antérieure où les effets pervers du dérèglement climatique étaient par exemple concentrés sur certains territoires et où ceux qui souffraient de la dégradation de l'environnement n'étaient pas ceux qui la provoquaient. Donc on peut dire que d'une certaine façon l'urgence facilite un peu le rôle des acteurs.
Et on peut le voir de cette manière-là, ça reste assez...
Il y a un moment où même Trump sera obligé de reconnaître qu'il y aura tellement de cyclones à un rythme tel aux États-Unis, des incendies, etc., que du point de vue de l'égoïsme américain, il faudra faire quelque chose. Mais il sera trop tard.
Mais il sera trop tard, et je crains que les derniers événements, comme les incendies en Californie, révèlent que les argumentaires qui nient complètement la réalité du changement climatique ont encore de beaux jours devant eux. La mauvaise gestion des forêts dénoncée par Trump pour expliquer ces incendies sans précédent, etc. Non, je pense que le repli étatique, disons, de certains États, là, clairement, le contexte politique américain et brésilien avec l'arrivée du président Bolsonaro s'est ressenti très fortement dans les négociations et illustre tout un... En Europe, on observe ça également. C'est la Pologne qui a accueilli la COP24 dans la région la plus charbonnière du pays. Et le ministre de l'Environnement, au milieu des négociations, sans être présent sur place, a affirmé clairement que la Pologne ne sortirait pas du charbon. Et l'initiative la plus identifiable de la présidence polonaise, c'est de faire une déclaration sur la transition. Il s'agit donc de ne pas que les efforts climatiques ne desservent pas en fait la dynamique économique du pays et donc essentiellement basée sur le charbon. Donc les réticences sont extrêmement fortes, plus encore qu'elles ne l'ont été. Par contre, la pression des sociétés civiles, des populations, dans certains pays, mais là encore, il y a une forte... La crise des Gilets jaunes révèle aussi une grande fracture entre le monde citadin et le monde rural. Et la France était assez empêchée du fait de cette situation politique difficile au sein de la COP24. Donc sur la capacité du droit international à faire changer les comportements, en tout cas le rôle des COP est tout à fait modeste aujourd'hui. Les textes juridiques sont adoptés, les manuels d'application désormais sont adoptés, y compris pour l'accord de Paris. Donc les règles sont opérationnelles à partir de 2020. En revanche, pour les concrétiser, c'est essentiellement au niveau interne que cela va se décider. C'est-à-dire que c'est aux États de faire des efforts, de trouver des moyens de changement des modes de production pour changer vraiment.
Je lisais en préparant cet entretien que sur 196 pays, il n'y en avait que 16 actuellement qui respectaient leurs engagements environnementaux. La France ne fait pas partie, mais on reviendra sur la situation française plus longuement, et la France ne faisait pas partie des 16 vertueux, on va dire. 16 sur 196, actuellement.
C'est assez difficile, je crois, de mettre un seuil entre pays vertueux et pays et mauvais élèves du climat. Il est clairement des mauvais élèves, mais il faut remettre dans une perspective historique quels sont les États qui sont responsables du changement climatique. Et c'est justement sur cette pierre d'achoppement que le protocole de Kyoto a échoué, a vu son échec. L'Angleterre et les États-Unis, historiquement, quand on voit les travaux des historiens sur le climat, sont à l'origine de ce problème mondial. C'est seulement dans les années 70 que le problème, que les responsables sont élargis. Donc aujourd'hui...
sont élargis à la Chine.
À la Chine et l'Inde aujourd'hui.
L'Inde, etc.
Ouais. Mais aux autres pays européens, etc. Donc c'est très difficile. Là, on n'est plus du tout dans une... On ne cherche plus à compter les points pour savoir qui doit payer à mesure de sa responsabilité sur les changements climatiques.
Oui, ce qui est très paradoxal, c'est que le risque est global, le danger est planétaire, et en même temps, la façon dont, dès qu'on réfléchit un petit peu à la façon dont le dérèglement est né, et surtout à la façon dont il impacte les différents pays, pour ne pas parler des classes sociales à l'intérieur de chacun des pays, et on se rend compte qu'en fait, il y a une très très grande diversité de situations entre les États du Pacifique qui sont sûrs d'être rayés de la carte dans 20 ans, les très riches qui peuvent avoir l'espoir de construire une espèce de bulle qui les mettra à l'écart de la catastrophe, etc.
La question des inégalités, elle n'a jamais été abordée aussi clairement que lors de la COP24. C'est-à-dire, le principe des responsabilités communes mais différenciées permettait avant de faire deux catégories d'États, les États riches et les États pauvres, les États industrialisés, les États en développement. Sous le protocole de Kyoto, ça fonctionnait comme ça. La Chine et l'Inde en 1997 n'étaient pas pas des fortes émettrices, donc elles ont été considérées comme l'Arabie Saoudite, comme d'autres pays, comme pays en développement. Donc non obligés de réduire leurs émissions, sans être. Donc ne devant pas assumer le coût en fait, des efforts de réduction. La situation a considérablement changé. La Chine est devenue premier émetteur mondial. L'Inde la suit dans quelques décennies. Donc, le jeu géopolitique est complètement transformé et les rapports de force au niveau mondial font que ça conduit en fait à un affaiblissement de la capacité du droit international à régir ce problème en soi. C'est plus des dynamiques transnationales et notamment des réseaux interacteurs à la fois publics, privés. Des banques, des syndicats qui, se mobilisant autour de la question climatique, affirmant leur propre objectif climatique, et notamment après la démission de le retrait de Trump de l'accord de Paris pour les États-Unis, toute une coalition d'acteurs très hétéroclites qui disent « nous allons, par notre action, à moindre échelle, faire ce que l'État fédéral ne s'engage plus à faire ».
On fait une pause musicale. C'est Julien Prat qui nous interprète Green Planet.
Birdie's cage, the awakening, flooded and binding, off and on, it shattered and sound. Why would we fly away? Out there appears a betraying, this temper of all we made, forever to serve and protect. Bulbs of brass and gold, reflection of the soul. Oh, oh, oh. Tiny green planets towering, keepers of inner secrecies, revolving dark clubs, skimmering from me to the shrub. The hearing lasts too long. They speak in tongue, but I'm fluent. Hearts bend and crack and coat. Decipher, they're out of a bed. Oh, no matter how long it takes, beautiful.
Vous êtes toujours sur Canal B et à l'instant, Julien Prat avec le titre Green Planet. Aujourd'hui, dans Chercheurs en Ville, nous recevons Marion Lemoine-Chaune pour parler droit de l'environnement, politique mondiale et mobilisation citoyenne. En première partie d'émission, vous avez pu découvrir le rôle d'observatrice occupé par Marion Lemoine-Chaune lors de la COP24, dernière conférence des partis, et son regard sur cette rencontre internationale, au rôle pourtant modeste, mais qui donne toutefois de grandes orientations en termes de financement de lutte contre le réchauffement climatique. Depuis le protocole de Kyoto, signé en 1997, on peut assister à un changement de cap et de politique. L'accord de Paris, qui entrera en vigueur en 2020, renonce ainsi aux sanctions financières pour se tourner vers la pratique du name and shame, une sorte de bonnet d'âne réservé aux mauvais élèves. Maintenant, intéressons-nous à la position ambivalente du gouvernement français sur ce sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. À l'alerte lancée par le monde scientifique et relayée par la société civile et citoyenne, avant de réaffirmer l'indispensabilité d'un droit international de l'environnement. Pour en parler, Marion Lemoine-Chaune, chargée de recherche CNRS au laboratoire Institut de l'Ouest, droit de l'Europe à l'université Rennes 1, elle répond aux questions de Colette David et Christian Lebar tout de suite dans la deuxième partie de Chercheurs en Ville.
Alors on pourrait reprendre peut-être sur cette idée de, d'un droit international qui s'appuie sur une sanction assez originale ou assez inédite, à savoir le discrédit, la mauvaise image, la honte même qui frapperait certains États qui n'agiraient pas pour préserver la planète et qui auraient à endosser la responsabilité de la dégradation de l'environnement, du climat, etc. C'est évidemment une forme de régulation très, très fragile puisque ça repose sur une hypothèse quand même discutable qui est que les États et concrètement les chefs d'État sont sensibles à leur image auprès d'une espèce d'opinion publique internationale dont on aura évidemment bien du mal à saisir la consistance. Mais enfin, allons-y, faisons cette hypothèse, et en partie l'hypothèse que les COP en question sont probablement des lieux où cette image elle est activée. Alors, pour un chercheur en sciences politiques comme moi, c'est intéressant de comparer avec les périodes antérieures où c'était la démocratie qui produisait ce type d'image. C'est-à-dire qu'il y avait des régimes qui n'étaient pas démocratiques et qui, en quelque sorte, avaient à assumer une sorte de honte sur la scène internationale au point qu'ils étaient obligés d'organiser des simulacres d'élections, etc. Alors, est-ce qu'on a basculé dans un système, et de ce point de vue-là, peut-être on peut reprendre l'exemple de la Chine, où, par exemple, la vertu écologique viendrait compenser l'absence de vertu politique, pour dire ça en simplifiant?
C'est l'impression que j'ai pu avoir au début de mes travaux, donc il y a à peu près une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, la vertu, l'exemplarité climatique de certains pays, et notamment et surtout de l'Union européenne en tant qu'entité négociatrice, était fortement valorisée dans le processus de négociation. Donc la COP était le lieu où l'Union européenne pouvait réaffirmer aux yeux du monde
une espèce de leadership moral,
son
quoi.
Leadership, voilà, moral, et sur le plan pratique, c'était vérifié. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique. C'est vrai que le système de sanctions s'est affaissé, on peut le voir comme ça, pour conduire à une logique de name and shame, donc faire reposer la honte sur les moins bons élèves, mais les moins bons élèves assument de mieux en mieux leur rôle et les conséquences de ce rôle soi-disant dévalorisé par le régime juridique. Ce système de sanctions, d'absence de sanctions, il est vraiment à défaut de mieux. C'est parce que les États ne sont plus, la volonté politique n'est plus là pour décider ensemble, par la coopération internationale, de se contraindre, de s'auto-contraindre et de porter le regard sur les États partenaires dans le domaine climatique. Et que le système de sanctions n'existe plus comme tel. Donc la honte des États est un système effectivement très fragile.
La limite du name and shame, c'est Trump, quoi, d'une certaine façon. Parce que, bon, en gros, j'en ai rien à foutre de mon image. Voilà, il récuse la notion d'opinion publique internationale et la seule chose qui l'intéresse, c'est sa popularité à l'échelle nationale, et voilà.
Voilà. Et au sein de l'Europe, on voit les mêmes phénomènes exister. Certains États membres de l'Union européenne assument plutôt bien le fait de
c'est une des dimensions
lesquelles,
du populisme.
Lesquelles, hein. Quand vous dites certains
c'est
États,
populisme,
c'est quoi
c'est,
la Pologne, c'est la Pologne avec le charbon.
La Pologne avec le charbon est un très bon exemple de ça.
Et la Chine alors?
Alors la Chine, en fait, a tiré parfaitement son épingle du jeu dans l'évolution protocole de Kyoto, accord de Paris. Elle était considérée comme un pays en développement au moment du protocole de Kyoto, en 97, et puis elle est devenue première émettrice mondiale, quand on compte par État, mais a tout fait pour ne pas être contrainte, comme les États de l'Union européenne l'avaient été, à réduire et à se soumettre à un système de vérification des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc la différenciation entre les deux catégories États industrialisés et États en développement n'existe plus. Là, on est dans une différenciation par auto-élection. Donc chaque État décide de dire s'il est plus ou moins développé. Ouais. Et donc
la Turquie, par exemple, avait demandé à être considérée comme pays en voie de développement.
Voilà. Oui. Une source de blocage à la fin des négociations.
Donc là, c'est la foire d'empoigne.
Du coup, ça fait perdre du temps. En fait, y a des chercheurs en sociologie qui montrent que les COP participent d'une fabrique de la lenteur dans la discussion climatique. Et on atteint ici, en fait, la limite de l'utilité, peut-être, de ces réunions dans le format actuel, des réunions annuelles à l'échelle mondiale, puisque la complexité du sujet, l'ampleur de la réunion, tout ça, ce sont des éléments qui font qu'il est de plus en plus difficile de discuter. Donc la Chine parvient à garder à l'échelle internationale une image assez positive, en fait, en investissant massivement dans les énergies renouvelables, notamment, mais elle semble répondre finalement à des préoccupations internes de santé publique, et c'est vrai qu'elles sont très liées au changement climatique, par exemple la pollution de l'air. Donc il s'agit mais elle n'est pas du tout dans une phase de décarbonisation de son économie, de son système de production. Et les choix qui sont faits sur les nouvelles routes de la soie, par exemple, illustrent tout à fait qu'elle ne compte pas changer de modèle de développement. Donc elle l'inscrit dans un monde fort en carbone encore, à haute extraction des ressources fossiles. Les prochaines décennies. Donc c'est un mauvais signal.
Et quid de la France qui est volontiers donneuse de leçons? Et comment vous replacez ça dans le contexte actuel? Démission de Nicolas Hulot, la France qui était relativement stable en émissions, si j'ose dire, depuis 3 ou 4 ans de CO2, augmentation de plus 3,2% l'an dernier.
En 2017, oui.
Voilà. Et à Katowice, notre ministre François de Rugy et la secrétaire d'État Brune Poirson ont fait juste une apparition, n'étaient pas au débat et n'étaient même pas non plus à la clôture, comme nombre de chefs de gouvernement et des pays du Nord, mais quand même.
Bon, la position de la France, elle est si on l'évalue sur les 20 dernières années, elle reste positive parce que au sein de l'Union européenne, c'est l'un des États qui a effectivement baissé ses émissions de gaz à effet de serre, même si l'année 2017, les émissions repartent à la hausse, et ça, c'est un très mauvais signal qui montre en fait la limite des changements à très petite échelle que la France a choisi de faire et qui suppose en fait pour changer vraiment les choses, pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, de faire des changements structurels beaucoup plus importants. Dans les choix d'infrastructures, par exemple, la pétition qui a été signée, on va peut-être en parler tout à l'heure, détaille les choix, les investissements français dans les différents domaines, ferroviaire et routier, par exemple. C'est tout à fait flagrant de voir quelle place la France fait à la voiture et non pas à la voiture électrique. Donc la position de la France, elle reste globalement positive. Emmanuel Macron, dès le début de son mandat, a cherché à mettre en avant le rôle de leader en fait, de la France, qui est un rôle de leader qui reste à prendre aujourd'hui dans les négociations climatiques, en organisant par exemple le One Planet Summit en décembre 2017. Il a même été proclamé champion du climat par le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour son action visible et puis son charisme effectivement sur cette question-là. En revanche, quand on étudie plus précisément les politiques internes, au-delà de la position de la France à l'échelle internationale, c'est assez décevant.
Et donc vous avez cet automne avec 700 scientifiques français, vous avez signé un appel pour demander aux politiques, c'est vraiment aux politiques que vous vous adressiez, de passer à la vitesse supérieure et d'appliquer aussi des engagements préalablement conclus.
Un appel aux politiques et une volonté de faire écho plus largement au sein de la société civile et de donner l'alerte, comme d'autres appels avaient déjà cherché à le faire durant les années précédentes. Mais je crois que pour maintenir un niveau de pression sur l'urgence d'agir et d'agir efficacement, cet appel cherchait à y contribuer.
Alors quelques exemples peut-être de préconisations liées à cet appel ? Donc c'était les infrastructures, c'était...
Alors l'appel ne contenait pas des préconisations, enfin des changements de politique interne, ouais. Plutôt montrer qu'en fait il fallait amorcer, pour amorcer une transition énergétique, écologique, il fallait que des choix beaucoup plus courageux et beaucoup plus radicaux soient faits dans les politiques, notamment en intersectoriel. On voit que la démission de Nicolas Hulot, ses rapports avec le ministre de l'Agriculture de l'époque, la question des lobbies, la place faite à la chasse par exemple, tout ça ce sont des signes en fait de la considération de la place de l'écologie par l'exécutif actuel, qui souvent sont discordants entre l'affirmation de leur importance politique et concrètement les mesures qui sont mises en œuvre et la place laissée aux acteurs qui voudraient vraiment changer les choses.
Vous avez pris quand cette décision ?
Hier soir.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir au moment de la réunion avec les chasseurs ?
Disons qu'elle a mûri cet été, que j'espérais justement qu'à la rentrée, fort des longues discussions que j'ai eues avec le Premier ministre, avec le Président, il y aurait un affichage clair sur le fait que c'est l'ensemble du gouvernement, l'industrie, l'économie, le budget, le transport, c'est déjà le cas, l'agriculture et bien d'autres, qui allaient être avec moi, à mes côtés, pour porter, incarner, proposer, inventer cette société économique. Je sais que seul, je n'y arriverai pas. J'ai un peu d'influence, j'ai pas de pouvoir.
Extrait de l'interview de Nicolas Hulot, menée par Nicolas Demorand et Léa Salamé, sur France Inter, c'était le mardi 28 août 2018.
Mais dire ça, c'est aussi montrer le gouffre qu'il y a entre des choses qui relèvent un peu de la posture, dont effectivement les chefs d'État se sont un peu fait les spécialistes, en particulier en France. Posture qui peut être à l'échelle nationale, mais qui va aussi trouver à se déployer dans les grandes arènes internationales, etc. Et puis la réalité des politiques publiques nationales, là pour le coup, donc sur lesquelles on n'a pas l'excuse de... sur lesquels on a la main, quoi, hein, sans parler de ce troisième étage qui serait les comportements ordinaires des citoyens ordinaires qui participent aussi de la production de CO2, etc. Donc là, on a une architecture infernale.
Une architecture infernale, mais qui révèle pas mal de signes plutôt positifs. Par exemple, dans les comportements plus individuels, on sent qu'on n'est plus du tout dans la même attention portée à la gestion des déchets,
alors ça, oui,
au déplacement.
On entend beaucoup ça. L'idée, c'est que c'est la société civile qui est en train de bouger, qui est en train de bouger plus vite que la société politique, et que voilà, le salut viendrait davantage au fond des micro-comportements agrégés que des grosses machineries, alors internationales forcément, mais même nationales.
Bah, je crois que pour atteindre une efficacité, pour que ça marche, il faut une complémentarité entre les deux. Aujourd'hui, je crois que la société elle est davantage consciente là, que ne l'est le courage politique démontré, qu'il faut changer les comportements. Peut-être que le prochain débat national de grande ampleur permettra de discuter concrètement de ces questions-là. Mais ça, et au sein des COP, c'est la même chose. Finalement, le niveau de complexité des discussions le panorama très important des sujets abordés et le niveau d'abstraction en fait par rapport au mode de production, aux choix économiques qui sont faits, aux dispositions qualitatives dans les traités de commerce par exemple. Tout ça, ce sont des questions très très pratiques, concrètes, qui sont pas du tout abordées au sein des COP et que les États ne souhaitent pas voir changer par ces COP. Donc je crois que c'est davantage les échanges de bonnes pratiques entre les pays du Sud qui participent au COP. Là, on voit ce type d'échange, c'est-à-dire comparer les plans nationaux d'adaptation, échanger des pratiques pour obtenir des techniques qu'on n'aurait pas inventées ou qui auraient pris davantage d'années à faire en interne, etc. Mais pour la France... La faible présence des ministres ne fait que révéler, je crois. Enfin, dans les discours politiques, on voit que le climat n'est pas, et certes le sujet le plus important, mais n'a pas du tout de place prépondérante. Il n'est pas en train de changer toutes les autres politiques internes. Et les déclarations de la secrétaire d'État, Brune Poirson, qui est restée, je crois, 3 ou 4 jours à la COP. Mais c'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait classique, ne permettait pas en fait de mettre la France comme leader, de la considérer comme leader. Et c'est plutôt les Gilets jaunes qui étaient abondamment cités par les négociateurs de tous les pays comme une source de blocage et la preuve que cette transition juste devait intégrer tous les modèles.
On peut analyser les Gilets jaunes comme un indicateur de blocage par rapport aux incitations à la sobriété écologique.
Je crois que le conflit des Gilets jaunes, aujourd'hui, il est déconnecté de la cause initiale qui était la taxe sur les carburants. Donc la question climatique,
elle est absente. Voilà. On peut à minima dire qu'elle est absente.
Oui.
La question climatique, elle n'est pas absente dans certaines actions menées par des particuliers ou des associations. Il y a actuellement deux actions intenté au titre de l'action défaillante de l'État en matière climatique, celle du maire écologiste de Grande-Synthe dans le Nord, Daniel Carême, et celle de 4 ONG, Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'association L'Affaire du Siècle. La pétition de L'Affaire du Siècle a obtenu 2 millions de signatures. Et donc, d'après ce que j'ai compris, l'État doit répondre d'ici 2 mois. Autrement, et le maire de Grande-Synthe d'un côté et les 4 associations vont devant le tribunal administratif pour contre l'État.
Alors, la pétition qui a réuni 2 millions de signataires, donc en un mois et demi, qui s'appelle donc l'affaire du siècle et qui est portée effectivement par les ONG que vous avez citées, et y compris Notre Affaire à Tous, qui est en fait l'ONG qui prépare depuis plusieurs années ce recours administratif. Donc il ne s'agit pas d'une plainte, on n'est pas dans le cadre d'un procès pénal, mais bien d'un recours administratif, donc d'une injonction, d'une demande demander à un juge administratif qu'il enjoigne l'État à agir, donc à respecter ses émissions, les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un recours... La pétition, en fait, fait office de demande préalable, comme la procédure le prévoit classiquement. Donc, effectivement, il y a 2 mois dans lesquels on doit informer les représentants de l'exécutif avant de déposer, le cas échéant, le recours devant la justice. Donc, ce recours, je ne sais pas s'il va être effectivement déposé, ce sera certainement le cas. Je crois que l'impact principal, dans tous les cas, c'est l'écho politique et l'écho citoyen qu'il a eu. Et je crois que c'était de toute façon le souhait de mobilisation qui était le plus important dans cette initiative. Les conséquences juridiques du recours, même s'il est déposé et qu'un juge reconnaît que l'État doit respecter ses émissions de gaz à effet de serre, il ne fera qu'ajouter une pression supplémentaire sur l'État pour agir dans les temps.
Encore, on prend l'opinion à témoin, en fait.
Voilà.
Et il y aurait actuellement 1200 actions de ce type dans le monde. Et dans un passé récent, les Pays-Bas ont été condamnés. Il y a eu le même type d'action aux Pays-Bas. Et l'État néerlandais a été condamné quand même.
Oui, tout à fait. L'affaire phare qui a donné l'exemple en fait et l'idée à notre affaire à tous de monter ce type de recours, c'est l'affaire Urgenda aux Pays-Bas, portée par 900 citoyens et l'ONG environnementale Urgenda, qui a déposé le même type de recours, se fondant sur la violation par l'État néerlandais de l'obligation de vigilance, donc le due diligence, le fait qu'il aurait dû être plus attentif à la nécessité de mettre en œuvre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans un pays particulièrement concerné, avec des villes côtières directement menacées. C'est l'exemple type du pays riche, mais qui va devoir débourser sans compter pour s'adapter aux changements dans les décennies à venir. Donc cette affaire aux Pays-Bas, elle a été jugée en premier appel et confirmée en appel en 2018. Et l'État néerlandais doit donc mettre en œuvre ces objectifs nationaux.
C'est intéressant parce que ça nous ramène vraiment aux bases du contrat social et de la philosophie de l'État, c'est-à-dire l'État qui est là pour protéger les individus, les citoyens, et qui est défaillant sur ce qui est en principe sa mission première.
Oui, tout à fait. Et il y a de nombreuses affaires différentes. Il y a des affaires à l'encontre des États, des affaires à l'encontre des États fédérés, notamment aux États-Unis ou au Canada, mais aussi de très nombreuses affaires à l'encontre des compagnies, des industries directement, notamment les industries pétrolières, Total, Exxon, Mobil, Chevron, etc., accumulent un nombre de procès sous différents modes. Là, il ne s'agit plus de procès, de recours administratifs incroyables, portés tantôt par des class action, des citoyens, des ONG, etc. C'est un vaste mouvement en pleine croissance de contentieux en fait en matière climatique. Donc on appelle ça les procès climatiques par facilité, mais ça dénote en fait une traduction juridique d'une pression supplémentaire au niveau politique et d'une forte préoccupation des jeunes. Notamment, il y a beaucoup de jeunes qui portent ces recours et de la population, des populations de par le monde sur ces questions-là.
C'est quelque chose qui est source d'espoir pour vous qui travaillez sur une matière quand même particulièrement anxiogène. Comment vous faites à titre personnel ?
Oui, c'est vrai que se contenter des perspectives ouvertes par les COP, c'est nécessairement... ça ne permet pas de nourrir de grands espoirs. On en revient souvent déprimé, oui. Tout à fait, mais les COP sont prises maintenant vraiment dans un écheveau beaucoup plus large de dynamiques interacteurs et notamment ces contentieux climatiques, que la mobilisation se fait jour en bien des points de la société, et donc qu'il ne s'agit plus seulement de centraliser ou de fonder ses espoirs là-dessus. Je crois que les COP restent importantes, même malgré la dynamique plus large, comme réunion universelle. Et donc pour maintenir à l'agenda politique la question climatique, et c'est principalement ça le rôle qu'elle joue aujourd'hui, et les traités offrent un support, et notamment dans les contentieux climatiques, l'accord de Paris, comme le protocole de Kyoto avant, offre une base juridique sur laquelle les ONG, les citoyens, peuvent se fonder pour porter leur action devant la justice. Et si le droit international n'existait pas, il serait bien plus compliqué de prouver la violation de telles obligations. Donc il y a de nombreuses villes aussi qui font l'objet de recours dans ce sens-là, comme celle que vous avez évoquée.
Oui, on n'a pas évoqué les collectivités locales, le rôle des collectivités locales. On sait que, par exemple, aux États-Unis, certains États fédérés ont un peu pris le relais d'un État fédéral défaillant pour opérer le changement climatique.
Oui, par exemple, la Californie est l'exemple type de ce... très forte mobilisation, d'une exemplarité vers la neutralité carbone. La France vise aussi la neutralité carbone d'ici 2050.
Le discours des collectivités territoriales en France est très, en apparence, très soucieux.
Très ambitieux.
Très ambitieux, oui.
Et les collectivités se joignent, j'ai l'impression, sans compter, à tous ces réseaux qui, en émergence, ces réseaux de villes, ces réseaux de régions, mais aussi interacteurs, qui prennent la forme de plateformes sur Internet, en fait des sites Internet dans lesquels on s'inscrit, chacun donne avoir ses objectifs climatiques, les actions qu'il mène, et ça donne lieu à des réunions.
Et on voit que là, pour le coup, l'image des territoires, hein, on sait à quel point nos élus locaux sont obsédés par l'image de la région, de la ville, etc., joue quand même très fort avec des évaluations, des labels, des classements, etc., qui incite les élus à aller éventuellement bien au-delà de ce qu'attendent des populations dont on rappelait tout à l'heure à quel point elles étaient inégalement sensibles à l'urgence climatique.
Je crois que dans toutes les régions et dans tous les territoires, en fait, on peut se faire le laboratoire de nombreuses expériences différentes qui peuvent servir et qui peuvent être exportées aujourd'hui très facilement à l'échelle mondiale. Et là, la réalité de la mondialisation du droit et des politiques, elle sert aussi à ça, en fait, à mettre en lien, à favoriser
Marion Lemoine-Chenot, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à Christian Lebar et à notre réalisatrice Lucie Loire. Et rendez-vous dans un mois pour une prochaine émission de Chercheurs en Ville.